Chapitre 13. Il voyait avec étonnement et avec crainte passer en elle ses larges ondes de vie, ses expressions extraordinaires, ses lumières et ses ombres alternantes. Et il n'osait parler, n'osait interrompre le travail occulte où s'agitaient les puissances de cette âme grande et misérable. Sous les paroles, il sentait la beauté et la tristesse des choses inexprimées, mais confusément. Et malgré la certitude que quelque bien difficile allait naître d'une telle fièvre, il ne savait pas à quelle issue cet amour serait conduit par la nécessité de devenir parfait ou de périr. Il avait l'esprit dressé dans une attente merveilleuse à se sentir vivre avec tant de ferveur en ces lieux oubliés, sur cette herbe chétive le long de ce chemin silencieux. Jamais il n'avait eu en lui-même un sentiment plus profond de la force incalculable dont est doué le cœur de l'homme. Et tandis qu'il entendait le battement de son propre cœur et devinait la violence de l'autre, il lui semblait entendre résonner les coups du marteau sur la dure enclume où se forge le genre humain. « Parlez-moi encore, dit-il, rapprochez-vous encore de moi, chère âme. » Nul instant, depuis que je vous aime, ne vaut ces quelques pas que nous avons faits ensemble aujourd'hui. » Elle continuait son chemin, tête basse, enveloppée par l'illusion. Mais cela pourrait-il être? Elle sentait autour de ses flancs sa stérilité comme une ceinture de fer. Elle songeait à la ténacité inexorable des mots enracinés dans la chair brute. Mais la puissance de sa passion et de son désir, fortifiée par une idée de justice, lui apparaissait assez forte pour accomplir un prodige. Et ce qu'il y avait de superstitieux dans sa nature, s'élevant pour voiler sa lucidité, favorisait l'espérance naissante. Mais ai-je aimé une seule fois avant cette fois-ci? N'ai-je pas, durant toute la suite de mes années, attendu ce grand amour qui doit me sauver ou me détruire? De ceux-là qui ont accru ma tristesse, mais quel est celui dont j'aurais voulu un fils? N'est-il pas juste qu'une vie nouvelle sorte de ma vie, maintenant que j'ai fait à mon Seigneur le don entier de moi-même? Ne lui ai-je pas apporté intact mon rêve de vierge, le rêve de Juliette? Toute mon existence, depuis ce soir de printemps jusqu'à une nuit d'automne, n'est-elle pas abolie? Qu'elle voyait l'univers transfiguré par son illusion. Le souvenir de sa mère lui donnait de l'amour maternel une image sublime. Les yeux cléments et fermes se rouvraient en elle et elle priait. « Oh, dis-moi que moi aussi je serai pour une créature de ma chair et de mon âme ce que tu as été pour moi. Réconforte-moi, toi qui sais. » La solitude de son passé lui réapparut épouvantable. Dans l'avenir, elle ne vit que la mort ou cette chance de salut. Elle se dit que pour mériter ce salut, elle supporterait toutes les épreuves. Elle le considéra comme une grâce à obtenir. Elle fut envahie par une religieuse ardeur de sacrifice. Il semblait que la fébrile palpitation de la lointaine adolescence évoquée se renouvela dans ce trouble et que, comme alors, elle marcha sous le ciel poussée par une force presque mystique. Elle allait à la rencontre de Donatella Arvale, dont la figure se dessinait sur l'horizon enflammé au fond d'une rue ouverte vers l'eau calme. Et sa première question, si imprévue, résonnait de nouveau en elle. « Pensez-vous souvent à Donatella Arvale, Stelio ?» La rue, courte, conduisait à la Fondamentale degli Angeli, à ce canal encombré par les barques de pêche, d'où l'on voyait la grande lagune unie et radieuse. Elle dit, « Oh, quelle lumière! Comme ce soir-là, quand je m'appelais encore Perdita, Stelio. » Elle répétait une note qu'elle avait déjà touchée dans un prélude resté en suspens. « Le dernier jour de septembre, ajouta-t-elle, vous rappelez-vous ?» Elle avait le cœur gros, si gros que, par instant, il semblait l'étouffer, et que la force de son émotion n'était plus en son pouvoir, mais semblait sur le point de lui échapper et de la livrer en proie aux troubles furies dont la subite insurrection l'avait déjà plus d'une fois emportée. Elle voulait que sa voix proférât sans trembler le nom qui, nécessairement, devait résonner dans ce silence entre son ami et elle. Vous rappelez-vous ce vaisseau ancré devant les jardins ? Une salve salva le pavillon que l'on amenait sur la poupe. La gourdole passa au ras de la cuirasse. Elle s'attarda une seconde, et sa pâleur s'anima d'une vie inimitable. « Alors, dans cette ombre, vous avez nommé Donatella. » Elle fit un nouvel effort comme un nageur qui, submergé par une vague nouvelle, secoue la tête hors de l'écume. « Et elle commença d'être à vous. » Elle sentit qu'elle se raidissait de la tête aux pieds comme par l'effet d'une piqûre venimeuse. Elle fixait ses yeux grands ouverts sur les eaux éblouissantes. « Elle doit être à vous, » continua-t-elle avec la rudesse de la nécessité dans la voix, comme pour repousser par un second choc les choses terribles qui s'apprêtaient à surgir du fond de son ardeur. Étreint par une angoisse violente, incapable de parler et d'interrompre par une parole vaine ces foudroyantes apparitions de l'âme tragique, le jeune homme s'arrêta. Il mit sa main sur le bras de sa compagne pour la faire arrêter aussitôt. « Mais n'est-il pas vrai ?» lui demanda-t-elle avec une douceur presque tranquille, comme si ses nerfs contractés se fussent tout à coup détendus et que sa passion eût accepté le joug imposé par la volonté. « Allez parler, oh, je n'ai pas peur de souffrir. Asseyons-nous ici, je suis un peu lasse. » Ils s'appuyèrent à un petit mur en face des eaux. Si pur était le miroir de la lagune au solstice que les formes des nuages et des rivages, en s'y reflétant, prenaient une qualité idéale comme par la vertu d'un art divin. Les choses voisines et les choses lointaines, le rouge palais des Damouta sur le canal et là-bas le fort de Tessara planté d'arbres, avaient dans les deux images la même évidence. Les barques noires, avec leurs voiles repliées, avec leurs filets étendus le long des vergues, recueillaient dans leurs carènes le sentiment de repos infini qui venait des horizons. Nulle de ces lignes ne pouvait être troublée par les paroles de la douleur humaine, et toutes enseignaient le silence et promettaient la paix aux hommes avec le temps. « Que vous dirais-je ? » répondit Stelio d'une voix étouffée, comme s'il eût parlé pour lui-même plutôt que pour cette femme, impuissant à surmonter l'angoisse que lui donnait la certitude de son présent amour et la conscience de son désir inexorable comme le destin. Peut-être ce que vous avez imaginé est-il vrai ? Peut-être n'est-ce qu'un fantôme de votre esprit ? Oh, ce qu'à cette heure, je sais d'une manière certaine, c'est que je vous aime et que je reconnais en vous toutes les noblesses. Je sais encore une autre chose, que j'ai une œuvre à accomplir et une vie à vivre selon que m'a disposé la nature. Vous aussi, rappelez-vous, en ce soir de septembre, je vous parlais longuement de ma vie et du génie qui l'amène où elle est destinée. Vous savez que je ne puis renoncer à rien. Il tremblait comme s'il avait eu dans les mains une arme affilée et que, obligé de la brandir, il ne put éviter de blesser cette femme sans défense. « À rien, et spécialement à votre amour qui sans cesse exalte ma force et mon espérance. Mais ne m'avez-vous pas promis plus que l'amour? Ne pouvez-vous pour moi les choses mêmes que l'amour ne peut? Ne voulez-vous pas être la constante inspiration de ma vie et de mon œuvre? Elle écoutait, immobile, sans battre des paupières, telle une malade en qui serait suspendue l'action du mouvement volontaire et qui assisterait à un spectacle d'horreur comme un esprit dans une statue. « C'est vrai, » poursuivit-il après une pause anxieuse, retrouvant son courage, dominant sa compassion, comprenant que de sa sincérité à cette minute dépendait le sort de la libre alliance par laquelle il voulait être, non pas diminué, mais grandi. « C'est vrai, ce soir-là, quand je vous vis descendre parmi la foule, en compagnie de celle qui avait chanté, je crus qu'une secrète pensée vous guidait alors que vous veniez ainsi à ma rencontre. » Elle sentit courir à la racine de ses cheveux un froid subtil et ses yeux s'embuer, bien qu'ils demeurassent arides. Ses doigts tremblaient sur la tige de la coupe, et les couleurs du ciel et des eaux nuançaient le vert oscillant dans cette main douloureuse. Je crus que vous l'aviez choisi vous-même. Vous aviez l'aspect de celle qui sait et qui prévoit. J'en fus troublé. Dans son atroce torture, elle sentit combien lui eût été doux le mensonge. Elle désira qu'il mentît ou qu'il se tût. Elle mesura l'espace qui la séparait du canal, de l'eau qui engloutit et apaise. Mais il y avait en elle, contre moi, quelque chose d'hostile. Elle me resta obscure, impénétrable. Vous rappelez-vous la façon dont elle disparut ? Son image pâlit, le désir de son chant demeura. Vous qui l'avez amenée vers moi, vous l'avez plus d'une fois fait revivre. Vous avez vu son ombre là où elle n'était point. Elle vit la mort. Nulle autre blessure n'avait pénétré si avant, ne l'avait percée plus cruellement. Elle se répétait, moi-même, moi-même. Elle réentendait le cri de sa perdition. Elle t'attend. Et de seconde en seconde, ses genoux menaçaient de se détendre, sa chair meurtrie menaçait d'obéir à la volonté furieuse qui la poussait vers l'eau. Mais un point restait lucide en elle pour considérer que ce n'était ni le temps ni le lieu. Sur la lagune commençaient à noircir les bancs de sable, découvert par la marée descendante. À certains moments, le tourbillon intérieur se dissipait derrière une apparence. Elle croyait ne plus exister. Elle s'étonnait de voir ce verre briller dans sa main. Elle n'avait plus le sentiment de son propre corps. Tout ce qui arrivait n'était qu'imaginaire. Elle s'appelait Perdita. La saison morte gisait au fond de la lagune. Les paroles étaient des paroles. Et pourrais-je l'aimer ? Un souffle encore et l'obscurité se faisait. De même que la flamme d'une chandelle s'incline sous le vent et paraît se détacher de la mèche, mais toutefois y reste adhérente par un fil d'azur, par une sorte de pâle étincelle qui tout à coup se rallumera et se redressera si le vent cesse, de même la raison de la malheureuse fut sur le point de s'éteindre. Sur elle passa le vent de la folie. La terreur blanchit et bouleversa son visage. Il ne la regardait pas, il avait les yeux fixés sur les pierres. Si je la rencontrais encore, pourrais-je désirer de tourner vers moi son destin ? Il revoyait la personne juvénile, aux reins arqués et puissants, dressée au-dessus de la forêt sonore, parmi le mouvement alternatif des archets qui semblaient tirer leurs notes de l'occulte musique renfermée en elles. Peut-être. Il revoyait ce visage hermétique, presque adamantin, préoccupé par une pensée très secrète, et ce froncement des sourcils qui le rendait hostile. Mais qu'importerait cela, et que pourraient toutes les vicissitudes et toutes les nécessités de l'existence contre la foi qui nous lie? Pourrions-nous ressembler à ces petits amants qui passent leur journée à se quereller, à pleurer et à maudire? Elle serra les dents. Elle fut assaillie par l'instinct sauvage de se défendre et d'offenser, comme dans une lutte sans espoir. Sur les incertitudes de sa pensée jaillirent les éclairs d'une volonté homicide. « Non, tu ne l'auras pas !» Et la brutalité de son tyran lui parut monstrueuse. Il lui sembla qu'elle saignait sous les coups mesurés et réitérés comme cet homme qu'elle avait vu dans une ville des mineurs sur le chemin blanc. L'horrible scène lui revenait à la mémoire. L'homme atterré par un coup de gourdin qui se relevait et lâchait de se jeter contre son adversaire et la massue qui le frappait de nouveau, les coups brandis l'un après l'autre par une main ferme et froide, le bruit sourd du choc sur la tête humaine, l'effort obstiné pour se relever, la ténacité de la vie, la chair du visage réduite en bouillie rouge. Dans l'incohérence de sa pensée, les images atroces de ce souvenir se confondaient avec la réalité de sa torture présente. Elle se leva brusquement, épouvantée de la sauvage énergie qui envahissait tous ses membres. Le verre se brisa dans sa main convulsée, la blessa et tomba en morceaux. Il tressaillit. Lui qu'avait trompé le silence immobile de cette femme. Et il la regarda, et il la vit enfin. Et il vit de nouveau, comme certains soirs, dans la chambre où sifflaient les tisons, il vit la figure de la démence qui se dessinait sur ce visage décomposé. Il balbutiait des paroles de regret, mais au fond de son effroi bouillonnait l'impatience. « Ah !» dit-elle, maîtrisant son tremblement avec une amertume qui lui tordit la bouche. « Comme je suis forte ! Oh, une autre fois, ayez soin que l'entaille soit moins lente. J'ai si peu de résistance, mon ami. » Elle s'aperçut que le sang dégouttait de ses doigts. Elle les enveloppa dans son mouchoir qui rougit. Elle regarda les débris du verre qui brillaient épars sur le sol. La coupe est brisée. Vous lui avez donné trop de louanges. Si nous lui élevions un mausolée ici. Très amère, presque moqueuse, elle avait les lèvres contractées par un rire acerbe qui n'éclatait pas. Lui se taisait, déçu, le cœur gonflé de rancune, car il voyait la beauté d'un effort détruite comme cette coupe parfaite. Imitons Néron, puisque nous avons déjà 8 exercices. Elle sentait d'une façon plus poignante encore que son ami le grincement de son sarcasme, la fausseté de sa voix, la méchanceté de ce rire qui était comme un spasme de ses muscles. Mais elle ne parvenait pas à ressaisir son âme, et elle la voyait emportée à la dérive, loin de sa volonté, sans recours. Telle, sur le navire, les marins dont les mains ont laissé échapper la barre, demeurent inertes devant le cabestan, qui, virant à rebours avec une violence terrible, abandonne le câble ou les chaînes. Elle éprouvait un besoin âpre et irrésistible de railler, de dévaster, de fouler aux pieds, envahi par une sorte de démon perfide. Tout vestige de tendresse et de bonté avait disparu, et toute espérance et toute illusion. La haine sourde qui couve sous l'amour des femmes ardentes se révélait dominatrice. Dans le regard de l'homme, elle découvrait la même ombre qui passait sur son propre regard. Je vous irrite. Ah, vous voulez retourner seul à Venise. Vous voulez laisser derrière vous la saison morte. L'eau descend, mais il y en a toujours assez pour qui n'a pas l'intention de revenir dessus. Vous plaît-il que j'en fasse l'épreuve? Ne suis-je pas docile à souhait? Et ces choses insensées, elle les disait d'une voix sifflante. Et elle était devenue presque livide, soudainement émaciée comme si un poison la rongeait. Estelio se souvenait de lui avoir vu sur le visage ce même masque en un jour lointain de volupté, de fureur et de tristesse. Son cœur se serra, puis il se desserra. Oh, si je vous ai fait mal, je vous demande pardon, dit-il, en essayant de lui prendre une main pour la calmer par la douceur de ce geste. Mais ne nous étions-nous pas acheminés ensemble vers ce but? N'est-ce pas de vous que me venait? Elle l'interrompit, impatiente de cette douceur de ce baume accoutumé. Mal, oui, qu'importe. Ne vous apitoyez pas, ne vous apitoyez pas. Ne pleurez pas sur les beaux yeux du lièvre aux reins brisés. Elle marchait sur le quai, le long du canal violâtre, devant les portes où, dans le crépuscule, étaient encore assises les femmes tenant sur leurs genoux les corbeilles pleines de verroterie. La parole se cassa entre ses dents. La contracture de ses lèvres se changea en une convulsion frénétique de rires qui sonnèrent comme des sanglots déchirants. Son compagnon frissonna. Et il lui parlait, bas, alarmé, sous les yeux suiveurs des curieux. « Mais domine-toi, domine-toi. Oh, fausse Carina, je t'en conjure. Ne sois pas ainsi, je t'en conjure. Nous arrivons tout de suite au rivage et bientôt à la maison. Bon, je te dirai, alors tu comprendras. Nous sommes dans la rue. Est-ce que tu m'écoutes ?» Sur le seuil d'un logis, elle avait aperçu une femme enceinte au ventre énorme, gonflé comme une outre, qui encombrait le passage entre les montants de la porte et d'un air songeur mangeait un morceau de pain. « Est-ce que tu m'écoutes ? Fausse Carina, je t'en conjure, tâche de contraindre. Allez, appuie-toi sur moi. » Il craignait de la voir s'abattre dans cette horrible convulsion et il s'apprêtait à la soutenir. Mais elle hâtait le pas, incapable de répondre, étouffant ses rires avec la main bandée par le mouchoir, et dans son spasme, elle croyait sentir la peau de son visage qui se crevassait. « Qu'as-tu? Que vois-tu ? » Jamais cet homme ne n'oubliera le changement de ses yeux. Ils étaient béants, fixes, sans regard, d'une mortelle immobilité au milieu des sursauts implacables, comme s'ils avaient été privés de paupières. Et pourtant, ils voyaient quelque chose qui n'était pas là. Ils étaient pleins d'une vision inconnue, occupés par quelques monstrueuses images qui peut-être engendraient ces rires d'angoisse et de folie. « Mais veux-tu que nous nous arrêtions? Veux-tu boire un peu d'eau ?» Ils se retrouvaient sur le quai des Verriers, où maintenant les boutiques étaient closes, où les pas résonnaient, où les éclats de l'atroce hilarité semblaient se prolonger en écho de même que sous un portique. Combien de temps s'était-il passé depuis qu'ils avaient longé ce canal mort? Quelle portion de leur vie s'était écoulée dans l'intervalle? Quelle profondeur d'ombre laissait-il derrière eux? descendu dans la gondole, pelotonné dans son manteau, plus livide que sur la route de Dolo, elle essayait de vaincre son spasme en serrant ses mâchoires avec ses deux mains. Mais, de temps à autre, le rire mauvais lui échappait et grinçait dans le morne silence, rompant le rythme des deux rames. Elle pressait plus fort sur sa bouche comme pour s'étouffer. Entre la voilette relevée sur les sourcils et le mouchoir taché de sang, ses yeux restaient ouverts et fixes dans l'immensité du crépuscule. La lagune et le brouillard engloutissaient toutes les formes et toutes les couleurs. Seuls interrompaient la grise uniformité des groupes des pieux, semblable à une procession de moines sur un chemin de cendres. Dans le fond, Venise fumait comme les restes d'un vaste saccage. Lorsqu'arriva le bourdonnement des cloches, l'âme se souvint, les larmes jaillirent, l'horreur fut vaincue. Elle abaissa ses mains, se pencha un peu vers l'épaule de son ami et retrouva sa voix pour lui dire « Pardonne-moi ». Elle s'humilia, eut honte d'elle-même. Depuis ce jour, en chacun de ses actes, elle implora silencieusement le pardon et l'oubli. Alors, parut naître en elle une grâce neuve. Elle se fit plus légère, parla bas, marcha dans la maison à pas discrets, se vêtit d'étoffes calmes. Voilà, sous l'ombre des cils, ses beaux yeux qui n'osaient plus regarder son ami. La crainte d'être à charge, de déplaire, d'ennuyer, lui donna les ailes de la divination. Sa sensibilité, toujours en éveil, fut aux écoutes et aux aguets devant la porte inaccessible des pensées. À de certaines heures, elle parvint à sentir dans son pouls battre le rythme de cette autre vie. Son âme, appliquée à créer un nouveau sentiment capable de vaincre les violences de l'instinct, révéla sur son visage, par des indices merveilleux, la difficulté de cette tâche secrète. Jamais son art parfait n'avait trouvé d'expression si singulière, ni jamais de l'ombre de ses traits n'était née des significations si obscures. Un jour, en la regardant, Stelio lui parla de la puissance infinie qui se recueille dans l'ombre produite par le casque sur le visage pur du pensieroso. Michel-Ange, dit-il, dans une petite cavité de son marbre, a concentré tout l'effort de la méditation humaine. De même que le fleuve remplit la paume qui se creuse, de même l'éternel mystère dont nous sommes environnés remplit ce peu d'espace ouvert dans la matière des montagnes par le ciseau du titan. Et il y est resté, il s'y est condensé dans la suite des siècles. Je ne connais que l'ombre mobile de votre visage, Fosca, qui parfois égale cette ombre en intensité et qui parfois même la surpasse. Avide de poésie et de savoir, elle se tendait toute vers l'animateur. Elle fut pour lui la figure idéale de celle qui écoute et qui comprend. Le pli fort et sauvage de ses cheveux imita l'impatience des peines autour de son front pur. Une parole belle tira subitement les larmes de ses yeux comme la goutte qui tombe dans un vase plein et qui la fait déborder. Elle lui lut les pages des souverains poètes. La forme auguste du livre parut magnifiée par les attitudes qu'elle prit en le tenant, par les gestes qu'elle fit en tournant les feuillets, par la religieuse gravité de l'attention, par l'harmonie des lèvres qui changeait sans cadence vocale les signes imprimés. Pour lire le poème de Dante, elle fut sévère et noble comme les sibylles qui, au bout de la Sixtine, soutiennent le poids des saints volumes avec toute l'héroïsme de leur corps ému par le souffle des prophéties. Les lignes de son maintien et jusqu'au moindre pli de sa tunique aussi bien que les modulations de sa voix, éclaircir le texte divin. La dernière syllabe exhalée, Elvis Tellio se levait d'un bond, tremblait comme dans la fièvre, errait à travers la chambre sous l'aiguillon du dieu, haleté de l'angoisse que lui donnaient des tumultes confus de sa force créatrice. Et parfois, elle le vit venir à elle avec des yeux rayonnants, transfiguré par une soudaine béatitude, illuminé par une flamme intérieure, comme si tout à coup se fût allumée en lui une surhumaine espérance ou que se fût révélée une vérité immortelle. Prise d'un frisson qui abolissait dans son sang le souvenir de toutes les caresses, elle le vit venir à elle et courber la tête sur ses genoux, abattu par l'ébranlement terrible du monde qu'il portait en lui-même, par la secousse qui accompagnait quelques métamorphoses cachées. Elle souffrit et elle jouit, ne sachant pas s'il souffrait ou s'il jouissait. Elle eut pitié, peur et révérence à sentir ce corps voluptueux travailler si profondément par la genèse de l'idée. Elle se tut, elle attendit. Dans ce front incliné sur ses genoux, elle adora les pensées inconnues. Mais elle comprit mieux ce grand émoi, un jour que, après la lecture, il lui parla de l'exilé. Imaginez, Fosca, si vous le pouvez, sans épouvante, le transport et l'ardeur de cette âme démesurée, tandis qu'elle se mêlait aux énergies élémentaires pour concevoir ces mondes. Imaginez l'Alighieri, déjà plein de sa vision, sur les routes de l'exil, implacable pèlerin, chassé par sa passion et sa misère, de contrée en contrée, de refuge en refuge, à travers les plaines, à travers les montagnes, le long des fleuves, le long des mers, en toute saison, suffoqué par la douceur du printemps, flagellé par l'âpreté de l'hiver, toujours en éveil, toujours attentif, ouvrant des yeux voraces, anxieux du travail intérieur par lequel allait se former son œuvre gigantesque. Imaginez la plénitude de cette âme parmi le contraste des nécessités communes et des apparitions flamboyantes qui soudainement se dressaient devant lui au détour d'un chemin, sur une berge, dans le creux d'une roche, sur le penchant d'une colline, dans le fourré d'un bois, dans une prairie où chantaient les alouettes. Par les canaux de ses sens, la vie multiple et multiforme se précipitait dans son esprit, où elle transfigurait en vivantes images les idées abstraites dont il était encombré, et partout, sous son pas douloureux, naissaient les sources imprévues de poésie. Les voix, les apparences, les essences des éléments entraient dans ce travail occulte et l'enrichissaient de sons, de lignes, de couleurs, de mouvements, de mystères innombrables. Le feu, l'air, l'eau et la terre collaborait au poème sacré, pénétrait la somme de la doctrine, réchauffait, l'aérait, l'arrosait, la couvrait de feuilles et de fleurs. Ouvrez ce livre chrétien et imaginez en face, ouverte aussi, la statue d'un dieu grec. Ne voyez-vous pas jaillir de l'une et de l'autre la nuée ou la lumière, les foudres ou les vents du ciel ? Alors elle commença à l'entrevoir, comment sa propre vie dérivait dans l'œuvre, qui absorbait tout, comment, goutte à goutte, son âme même entrait dans le personnage du drame, et comment ses aspects, ses attitudes, ses gestes, ses accents concouraient à former la figure de l'héroïne vivante au-delà de la vie. Elle fut comme une proie pour ses yeux voraces qui parfois le regardaient fixement avec une violence intolérable. Elle connut ainsi une autre façon d'être possédée. Il lui sembla qu'au feu de cette intelligence, elle se dissolvait en ses éléments, et puis qu'elle se reconstituait sous une forme parfaite par la nécessité d'un héroïsme dominateur du destin. Sa tâche secrète, concordante avec la vertu de la créature idéale, elle était induite à ne pas discorder de l'image qui devait lui ressembler. L'art secondait l'apparition du sentiment nouveau déjà préparé par elle. Toutefois, elle souffrit de ce simulacre qui jetait son ombre sur la réalité de son renoncement et de sa douleur. Alors une étrange ambiguïté naquit de cette similitude entre son être et la fiction. À certains moments, il lui semblait que son effort caché la préparait à la réussite du jeu scénique et non à une conquête de sa conscience sur l'instinct obscur. Il lui semblait, à certains moments, qu'elle perdait sa sincérité humaine et se retrouvait dans l'état d'excitation factice où elle avait coutume de se mettre lorsqu'elle étudiait le caractère de la personne tragique qu'elle devait incarner. Elle connut ainsi un autre tourment. Elle se ferma et se contracta sous le regard de l'investigateur comme pour empêcher celui-ci de la pénétrer, de lui ravir cette vie secrète. Elle eut peur du voyant. « Il lira dans mon âme les muettes paroles qu'il mettra dans la bouche de sa créature. Et moi, je ne pourrai les prononcer que sur la scène, derrière le masque. » Elle sentit que sa spontanéité s'arrêtait. Elle éprouva des égarements et des découragements confus, suivis parfois de révoltes que provoquait un besoin impétueux de rompre cette fascination, de se faire différente, de disjoindre d'elle-même cette image qui devait lui ressembler, de briser ces lignes de beauté qui l'emprisonnaient et la contraignaient à un sacrifice déterminé. N'y avait-il pas aussi, dans la tragédie, une vierge assoiffée d'amour et avide de jouissance, en laquelle un haut esprit reconnaissait l'apparition vivante de son rêve le plus ailé, la victoire invoquée qui devait couronner sa vie? Et n'y avait-il pas là aussi une amante qui n'était plus jeune, qui avait déjà le pied dans l'ombre et à qui restait seulement quelques pas à faire pour disparaître? Plus d'une fois, elle fut tentée de contredire par un acte violent sa résignation. Alors, elle tremblait devant la possibilité de retomber dans l'horreur, d'être reprise par l'horrible furie, d'être à nouveau terrassée par le monstre insidieux qui n'était pas mort, mais qui, toujours vivant, guettait dans l'obscurité le moment de bondir. Semblable à la pénitente, elle multipliait contre le péril sa ferveur, endurcissait sa discipline, aiguisait sa vigilance. Elle répétait avec une sorte d'ivresse l'acte de suprême renoncement qui avait surgi du fond de sa misère à l'aspect du feu purificateur. « Il faut que tu aies tout. Je serai contente de te voir vivre, de te voir jouir. » Et fais de moi ce que tu voudras. » Lui, alors, il l'aima pour les visions inattendues qu'elle faisait naître dans son âme, pour le sens mystérieux des événements intérieurs qu'elle lui communiquait par ses aspects changeants. Il s'étonna que les lignes d'un visage, les allures d'un corps humain, puissent toucher et féconder si fortement l'intellect. Un jour, il frissonna et pâlit en la voyant entrer de son pas silencieux, le visage composé dans une douleur extraordinairement calme, aussi sûr que si elle arrivait des profondeurs de la sagesse, de là où toutes les agitations humaines semblent un jeu des vents sur la poussière d'une route sans fin. « Ah, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai créé !» s'écria-t-il, trompé par l'intensité de cette hallucination, croyant voir son héroïne même apparaître sur le seuil de la chambre lointaine qu'occupaient les trésors enlevés au tombeau des Atrides. « Arrête-toi une seconde, ne bats plus les paupières, tiens tes yeux immobiles comme s'ils étaient pétrifiés. Tu es aveugle et tu vois tout ce que les autres ne voient pas. Et nul ne peut rien te cacher. Et ici, dans cette chambre, l'homme que tu aimes a révélé son amour à l'autre qui en frémit encore. Et ils sont ici, et leurs mains viennent de se disjoindre, et leur ardeur est dans l'air. Et la chambre est pleine de trésors funèbres. Et sur deux tables sont disposées les richesses qui revêtaient les cadavres d'Agamemnon et de Cassandre. Et là sont les cours remplis de colliers, et là sont les vases remplis de cendres. Et le balcon est ouvert sur la plaine d'Argos et sur les lointaines montagnes. Et c'est le crépuscule et dans l'ombre luit tout cet or terrible. Comprends-tu, tu es là, sur le seuil, conduite par la nourrice. Tu es aveugle et rien n'est inconnu pour toi. Arrête-toi une seconde. Il parlait dans la fièvre subite de l'invention. Tour à tour, la scène lui apparaissait, disparaissait, comme submergée par un torrent de poésie. Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu diras? Elle sentait se glacer la racine de ses cheveux. Son âme vibrait à la limite de ses membres comme une force sonore. Elle devenait aveugle et voyante. L'orage de la tragédie descendait et s'arrêtait sur sa tête. Qu'est-ce que tu diras? Tu les appelleras l'un et l'autre par leur nom, dans le silence où reposent les grandes dépouilles royales. L'actrice entendait dans ses oreilles la rumeur de ses veines. Sa voix devait résonner dans le silence des millénaires, dans le lointain des temps. Elle devait réveiller l'antique souffrance des hommes et des héros. Tu les prendras par la main et tu sentiras ces deux vies se tendre l'une vers l'autre, de toute leur force se regarder fixement à travers ta douleur immobile comme à travers un cristal près de se rompre. Et elle eut dans ses yeux la cécité des statues immortelles. Elle se vit elle-même sculptée dans le grand silence, et elle sentit le frémissement de la foule muette, saisie aux entrailles par la sublime puissance de cette attitude. Et ensuite, l'animateur s'élança brusquement vers l'actrice, comme s'il voulait la frapper pour en tirer des étincelles. Mais tu dois évoquer Cassandre de son sommeil. Tu dois sentir revivre entre tes mains ses cendres. Tu dois l'avoir présente dans ta lumière intérieure. Veux-tu? Comprends-moi. Il faut que ton âme vive, entre en contact avec l'âme antique et se confonde avec elle, et fasse avec elle une seule âme et une seule souffrance, de telle sorte que l'erreur du temps paraisse détruite et que soit manifestée cette unité de la vie à laquelle tend l'effort de mon art. Cassandre est en toi et tu es en elle. Ne l'as-tu pas aimée? Ne l'aimes-tu pas, toi aussi, la fille de Priam? Qui oubliera jamais, après t'avoir une seule fois entendu, qui oubliera jamais le son de ta voix et la convulsion de tes lèvres au premier cri de la fureur fatidique « Ô terre, ô Apollon !» Oh, je te revois, muette et sourde sur ton char, avec cet aspect de bête sauvage qu'on vient de prendre. Mais entre tant de cris terribles, il y avait aussi quelques soupirs infiniment doux et tristes. Les vieillards te comparaient à ce fauve rossignol. Comment disaient les paroles quand tu te rappelais ton beau fleuve, et quand les vieillards t'interrogeaient sur l'amour de Dieu, ne te rappelles pas? Oh, la tragédienne palpitait comme si de nouveau le souffle du Dieu l'eût envahi. Elle était devenue une matière ardente et ductile, soumise à toutes les inspirations du poète. Ne te rappelles-tu pas? Ô noces, noces de Paris, funestes anciens, ô vous, onde paternelle du Scamandre, alors près de vos rives se nourrissait de vous mon adolescence. Ah, divine, ta mélodie fait qu'on ne te regrette pas les syllabes d'Eschyle. Je me souviens. L'âme de la foule étreinte par la lamentation au son discordant se détendit et s'apaisa dans ce mélodieux soupir. et chacun de nous recouvra la vision de ses années lointaines et de son bonheur innocent. Tu peux dire « je fus Cassandre ». En parlant d'elle, tu te rappelleras une vie antérieure. Son masque d'or sera sous tes mains. Alors il lui saisit les mains, et sans y prendre garde, il les tourmentait. Elle ne sentait pas la douleur. Tous deux étaient attentifs aux étincelles qui s'engendraient de leurs forces mêlées. Une même vibration électrique parcourait leurs nerfs merveilleux. Tu es là, près de la dépouille de la princesse esclave, et tu palpes le masque. Qu'est-ce que tu diras ? Il y eut une pause où il sembla qu'ils attendissent un éclair pour voir. Les yeux de l'actrice redevinrent bils, immobiles, la cécité les avait repris. Tout son visage fit de marbre. Instinctivement, l'animateur lui laissa les mains libres, et elles firent le geste de tâter leur sépulcral. Elle dit, d'une voix qui créa la forme tangible, « Comme elle est grande, sa bouche !» Il palpita d'une anxiété semblable à la frayeur. « Tu la vois donc ?» Elle restait, les yeux fixes et sans regard. « Mais moi aussi, je la vois, elle est grande !» Le travail horrible de la divination l'avait dilatée. Elle criait, implorait, se lamentait sans trêve. Imagines-tu sa bouche dans le silence ? Et toujours dans la même attitude, comme en extase, elle dit lentement « Oh, quelle stupeur quand elle se tait !» Il semblait qu'elle répétât des paroles suggérées par un génie mystérieux, tandis qu'il semblait au poète, en les entendant, que lui-même était sur le point de les proférer. Un tremblement profond l'agitait comme en présence d'un prodige. « Et ses yeux ? » demanda-t-il tremblant. « De quelle couleur crois-tu qu'ils étaient, ses yeux ?» Elle ne répondit pas. Les lignes marmoréennes de son visage s'altérèrent comme s'il y passait une onde légère de souffrance. Un sillon se creusa entre ses sourcils. « Noir, peut-être ? » ajouta-t-il tout bas. Elle parla. « Non, il n'était pas noir, mais il le paraissait, car dans l'ardeur fatidique, les pupilles étaient si dilatées qu'elles dévoraient les iris. » Elle s'arrêta comme si tout à coup le souffle lui eût manqué. Un voile de sueur se répandait sur son front. Stélio la regardait, ne disant plus rien, très pâle. Et la pause était remplie par des grandes palpitations de son cœur agité. Dans les intervalles, continua la révélatrice avec une lenteur pénible, quand elle essuyait l'écume de ses lèvres livides, ses yeux étaient doux et tristes comme deux violettes. De nouveau, elle s'arrêta, oppressée, avec l'aspect d'une personne qui rêve et que son rêve fait souffrir. Sa bouche était sèche, ses tempes étaient moites. Tel il devait être avant de se fermer pour toujours.